J'espère, je suppose, on me taquine depuis assez longtemps sur le fait que cette conférence va faire péter l'audimat, parce que le sujet de la luxure intrigue souvent. Alors on verra. J'espère que dans les scores, je vais battre mes prédécesseurs. Et j'ai cherché par quoi commencer. Parce que quand on prend la parole, quand on doit dire quelque chose, il est d'usage, il est de bon ton, il est souhaitable de commencer par une petite histoire, une petite blagounette, une petite, de capter l'attention. Alors évidemment, sur le sujet de la luxure, c'est un peu compliqué. Avec l'orgueil, on peut dire... t'es orgueilleux, mais on peut jouer un peu sur l'ambivalence, il y a quelque chose, une sorte de fierté qui serait mal ajustée. Avec la gourmandise, on peut dire « Ah, c'est un péché mignon ». Bon, alors du coup, on peut faire des petites blagues. Voilà. Et en fait, pour la luxure, c'est compliqué de faire une blague. Alors, on peut se rabattre sur le théâtre ou le mime. Alors, il y a certains qui commencent leur conférence par des pièces de théâtre. Pour ceux qui ont suivi Don Bertrand, si vous ne l'avez pas suivi, je vous encourage à... qui nous a joué une partie de l'avare de Molière. On peut faire le colérique aussi, en imaginant, en faisant les bourriffés, on peut mimer, ça, c'est pas très compliqué. La jalousie, il suffit de parler de Instagram, des réseaux sociaux, de Snapchat, de TikTok et de rigoler, de se moquer. Mais la luxure, c'est compliqué aussi. C'est ni blague, ni mime, ni chorégraphie, ni pas grand-chose. Alors, quelqu'un m'a écrit, j'ai reçu un SMS tout à l'heure, « Pour votre intervention ce soir, j'espère que vous n'allez pas introduire le thème de façon trop scabreuse. » Il y a des religieuses qui seront devant leur écran. Alors en fait, en ne trouvant rien, je me suis dit que c'était sans doute normal. Et on pouvait remarquer que la particularité peut-être de ce péché de luxure, puisque c'est le sujet de cette conférence, de ce petit entretien, la particularité de ce péché qui est capital, c'est qu'il gêne un peu plus que les autres. Au point que, aujourd'hui, peut-être, on en a fait le péché, par excellence. Alors qu'il est quand même un des sept péchés capitaux. Alors un péché capital, juste pour mémoire, c'est un péché qui entraîne d'autres péchés, qui est à la tête d'autres péchés. Donc il s'inscrit dans... ce septenaire, ce groupe de sept péchés qui entraînent les autres et dont le patron incontesté est quand même l'orgueil. Mais étonnamment, on se confesse plus volontiers, me semble-t-il, dans les premières confessions, dans des confessions pas forcément très éduquées, on se confesse plus volontiers de quelque chose qui n'est pas forcément nommé la luxure, mais des péchés de luxure, que d'orgueil, par exemple, ou de colère. Alors qu'au fond, la colère est un péché capital autant que la luxure. Ou, dans le sud-ouest où j'ai passé du temps à Biarritz, où il y a quand même un goût pour les bonnes choses, dans le sud-ouest en général, on en parlait avec Don Étienne pour Agen tout à l'heure, il y a un goût pour les très bonnes choses, il y a une certaine maîtrise de la cuisine, et parfois, il y a une petite tendance à glisser vers ce que dit saint Paul, leur Dieu, c'est leur ventre. Et on fait de la luxure une sorte d'absolu, et on a tendance à négliger le reste. Alors, je me permets juste de rappeler ça, pour commencer, c'est que la luxure est un des sept péchés capitaux, ça n'est pas le péché capital. Et si on a tendance à faire de la luxure le péché capital, c'est parce que souvent elle captive Elle hypnotise. Elle emprisonne aussi. Une petite définition, c'est que la luxure, enfin le mot de luxure vient du latin luxuria, qui est un débordement. Et on parle d'une forêt qui est luxuriante, par exemple. En grec, il y a un mot qui est plus concret, qui nous parle sans doute plus aujourd'hui, qui est le mot de porneia, qui a donné le mot pornographique. On peut ajouter aussi un autre mot qui arrive dans les Écritures, qui est celui de fornication, qui désigne le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, avec une autre personne que celle avec laquelle on est marié. Et ce mot lui-même a une histoire, parce qu'il mélange à la fois un état animal et un lieu. L'état animal, c'est le mot latin « furnus », qui désigne le stade de l'animal qui est en chaleur ou en rut, et « fornix », qui est le lieu des petites chambres voûtées, ou dans des ruelles, des ruelles voûtées, où les prostituées de Rome attendaient leurs clients. Et par extension, c'est devenu à désigner un lupanar, une maison close, ou voilà. Ça, c'est pour les mots. Et le catéchisme de l'Église catholique définit la luxure comme, je cite, « un désir désordonné ou une jouissance déréglée du plaisir vénérien ». Alors, je précise tout de suite, parce que le mot vénérien, on l'associe en français assez immédiatement à « maladie vénérienne », donc on pense que c'est tout de suite... c'est tout de suite horrible. En fait, vénérien, ça vient juste du nom de Vénus. Donc, a priori, au départ, ça renvoie à cette déesse de la beauté et de l'amour. Donc, a priori, il y a quelque chose de beau. Voilà. La luxure, je poursuis le catéchisme de l'Église catholique, la luxure est donc une jouissance déréglée du plaisir qui est procurée par l'amour et la beauté. Les catéchismes ajoutent « Le plaisir sexuel est moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union. » Voilà pour les mots. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait être facilement captivé ou fasciné par ce péché de luxure, au point qu'il empêche de voir d'autres péchés. Et je me suis posé la question, on reproche souvent aux chrétiens de faire de la sexualité une obsession. Alors certains, pour se défendre, disent, notamment depuis l'enseignement de Saint Jean-Paul II, dans les catéchèses qu'il donnait le mercredi, il y a des catéchèses qui ont été rassemblées, et puis un peu organisées, systématisées, sous la forme de ce qu'on appelait la théologie du corps. Depuis Saint Jean-Paul II, certains essayent de se défendre en disant, avec une certaine gravité, une certaine force, non, l'Église a eu un discours toujours beau sur la sexualité, le plaisir, etc. Elle a toujours défendu, toujours trouvé ça bon. Bon. Pas complètement vrai. Il y a quand même des petites nuances dans l'histoire. Il faut reconnaître qu'à certains moments, certains auteurs, pas tous, mais certains, se sont un peu braqués, un peu arc-boutés, sur ce péché-là, parmi d'autres, mais ce péché-là, ont insisté avec parfois une certaine dureté. C'est loin d'être le cas de tous, vraiment. Et il faudrait aussi rajouter, pour être juste, que l'Église a, pour le coup, constamment défendu la bonté du corps contre ceux qui niaient la bonté du corps. Et dans le un peu pêle-mêle, on peut dire que dans ceux qui niait la bonté du corps, il y a le mouvement cathare au Moyen-Âge, le jansénisme au XVIIe siècle, le rigorisme un peu plus tard, au XIXe siècle qui, du point de vue du rapport au corps, est un peu un siècle problématique, mais pas uniquement dans l'Église, mais dans l'ensemble de la société, et notamment à cause du corps médical qui a beaucoup scientificisé tout le rapport au plaisir, beaucoup médicalisé ce rapport-là. L'Église n'a pas toujours su, à ces moments-là, continue à défendre la bonté du corps. Mais dans l'ensemble, elle l'a fait au long de son histoire, et il serait injuste de dire que l'Église a toujours eu un problème ou toujours eu une obsession avec la sexualité. C'est pas juste. Je me suis du coup un petit peu amusé à regarder chez les pères de l'Église la place des péchés capitaux. On savait qu'avant les pères de l'Église, avant les auteurs médiévaux, les chrétiens avaient parfois été accusés dans les premiers siècles même de relâchement sexuel. Dans la morale romaine, juste avant et au début du christianisme, la sexualité était quelque chose qui devait être maîtrisé avec force, avec vigueur. Il fallait vraiment être très maître de ses pulsions, sans quoi on était une chiffre molle. Voilà. On n'est pas maître de soi, donc on n'est pas digne d'être un citoyen, en gros. Une bonne part de la philosophie grecque et romaine se méfiait du plaisir et de la sexualité. Les premiers chrétiens ont été accusés de débauche. Ce ne sont pas les premiers crétins, c'est les premiers chrétiens. Ils étaient accusés de débauche. Et je vous l'ai dit, notamment Tacite comme auteur, accusait les chrétiens de favoriser le relâchement des mœurs, notamment du point de vue de la sexualité. Donc, les chrétiens n'ont pas toujours été associés à cette gêne par rapport au plaisir et à la sexualité. Et du coup, avec ça en tête, je me suis dit, je vais regarder chez les auteurs. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a des outils numériques qui permettent de faire des petites enquêtes rapides. Et j'ai fait une enquête, je fais un petit peu mon scrupuleux des sources et de l'histoire, mais ça m'est apparu symptomatique. Donc, entre les pères de l'Église et les grands auteurs du Moyen-Âge, j'ai tapé quelques mots. Et voici ce que ça me donne. Entre le 2e et le 12e siècle, le mot « orgueil » apparaît 1484 fois. Ensuite vient la « jalousie » 586 fois, la « luxure » 376 fois, l'avarice 356, et puis la « paresse » et la « gourmandise » viennent un peu après. Alors, je n'ai pas compté la colère, parce que quand on tape « colère », on a « colère de Dieu », « colère dans tous les sens », donc voilà, c'est compliqué. Chez les deux auteurs qui parlent le plus de la luxure, le pape Grégoire le Grand, qui en parle 66 fois, et Origène, le théologien, qui en parle 49 fois. Le péché qui les marque le plus, c'est quand même l'orgueil. Grégoire le Grand, qui en parle 231 fois. J'ai pas tout lu, hein. Et Origène, qui parle 79 fois de l'orgueil. Et dans un même exemple, Bernard de Clairvaux, qui est un de ceux aussi qui parle le plus de l'orgueil, il en parle 139 fois, et la luxure, il en parle 17 fois. Donc autant vous dire que le premier des péchés pour tous ces auteurs, du 2e au 12e siècle, donc ce qui a constitué la matrice morale de notre christianisme, c'est l'orgueil, massivement. La même petite recherche m'a permis d'observer que ces grands auteurs parlent 867 fois de chasteté, quand ils parlent 376 fois de luxure, 1966 fois d'humilité, quand ils parlent 1484 fois d'orgueil, 374 fois de tempérance, quand ils parlent 196 fois de gourmandise. Autrement dit, c'est la conclusion de ma petite escapade d'historien psychorigide sur ces sources. Quand on réfléchit à la luxure et à la réflexion sur le plaisir sexuel dans la pensée des chrétiens, il est impossible de la regarder déconnectée des autres péchés capitaux et surtout de la regarder sans la vertu qui lui est opposée, sans la vertu à laquelle on est appelé, sans le bien qui nous est proposé. Et le catéchisme de l'Église catholique ne s'y est pas trompé. Il n'utilise qu'une seule fois le mot de luxure, une seule fois, et il en parle comme une offense à quelque chose de beau, à la vertu de chasteté dont il parle 46 fois. Alors, c'est de la statistique, mais ça vous montre l'état d'esprit. Donc la première chose peut-être à laquelle je puis vous inviter, C'est quand il s'agit d'examiner notre conscience sur le péché de luxure, de la regarder toujours, c'est valable pour tous les autres péchés capitaux et les péchés en général, mais de toujours la regarder avec dans le cœur que ce qui prime, c'est le bien pour lequel on est fait. Et c'est ce qui prime, pour le coup, c'est ce qui prime depuis, je peux le dire, depuis toujours. C'est une expression qui est haïe des historiens, mais depuis toujours, depuis l'Église, le début de l'Église, ce qui prime, c'est l'appel à la vertu. Alors, pour illustrer l'enseignement riche, plus riche que l'on imagine, que donne l'Église sur le péché capital de luxure, ce désir désordonné de la sexualité, ou cet usage déréglé de la sexualité, j'ai voulu, plutôt que de vous faire un exposé que vous pouvez retrouver assez facilement un peu partout, j'ai voulu vous partager un texte qui est d'une femme de lettres du 9e siècle, qui s'appelle Duoda de Septimanie, et qui a écrit, on a gardé, elle est morte vers 840, 850, je ne sais plus, et elle a écrit un manuel d'éducation pour son fils Guillaume, qu'on a gardé et qui est connu. Et je vous le lis parce qu'il me semble plein d'enseignements très riches. « Toi, mon fils, fuis la fornication et tiens ton esprit à distance de la prostituée. Il est écrit « Ne suis pas tes mauvais penchants et détourne-toi de tes mauvais désirs. » Ne permets pas à ton âme de volter parmi les concupiscences mauvaises. À coup sûr, si tu les écoutes, les unes ou les autres, et que tu leur donnes ton consentement, elles te feront tomber, qu'il n'en soit rien. » Alors, il y a 7 paragraphes, je vous ai lu le premier, je vais les commenter un par un pour que vous ne soyez pas trop perdus. La première chose, il me semble, c'est l'invitation à fuir et à se tenir à distance de la tentation. Il s'agit de ne pas permettre à l'âme, c'est une belle expression, de volter parmi les concupiscences mauvaises. Pour prendre une image, vous pouvez penser à une mouche sur une bouse. Il s'agit de ne pas permettre ça. Et avec réalisme, cette mère ajoute... À coup sûr, si tu les écoutes, elles te feront tomber, qu'il n'en soit rien. Donc il y a un premier enseignement, c'est fuir et être résolu, avoir un grand désir pour le bien et pour nous aider à fuir et être résolu en face de cette tentation. Elle poursuit. Et si cependant elle se présente et qu'à l'instigation de l'ange de Satan, elle te soufflette, lutte, prie et dit avec le psalmiste, « Ne livre pas, Seigneur, mon âme aux bêtes de la terre, n'abandonne pas, je t'en prie, l'âme de ton pauvre, ne me donne pas des yeux arrogants, éloigne de moi les désirs de la luxure et ne me livre pas à l'esprit d'impudence et d'intempérance. » Autre chose qu'on peut observer là, elle comprend bien la luxure comme faisant partie de une opposition à la vertu de tempérance. C'est la même chose que la gourmandise ou l'avarice, d'ailleurs, qui font partie de ces oppositions, ces péchés contre la vertu de tempérance. Et la solution qu'elle propose, avec réalisme, parce qu'elle dit, fuis, mais si jamais ça se présente, tu pries, tu luttes, et tu dis avec le psalmiste. Autrement dit, il faut s'engager avec son corps, s'engager avec son cœur, sa prière, et la première arme qui nous est donnée, c'est la parole de Dieu. Voilà. Elle poursuit. « Les yeux arrogants ne sont pas seulement, je pense, ceux du corps, mais aussi ceux de l'âme. » Si ce n'était pas aussi ceux de l'âme, tel personnage n'aurait pas dit « J'ai fait avec mes yeux le pacte de ne même pas penser à une jeune femme. » Il y a bien d'autres paroles en bien des passages. Pour pouvoir, en priant Dieu, échapper à l'excitation de ses envies, à ses tentations lancinantes, tu trouveras le réconfort de grands exemples. Ce que je retiens là, c'est encore une fois la marque d'un réalisme, parce qu'elle elle fait remonter la racine de la luxure à l'orgueil, à l'arrogance, le fait d'avoir des yeux arrogants. Or, on sait bien que la marque propre de la luxure, c'est de regarder l'autre non pas comme un don pour la sexualité, mais de le prendre comme un dû, comme un objet, de le réduire, de le manipuler pour son propre plaisir. Et donc, en fait, pour pouvoir faire ça, il faut avoir des yeux arrogants, des yeux qui dominent, des yeux qui mangent, des yeux qui consomment. On est au 9e siècle, il n'y avait pas encore Instagram et TikTok, hein. Et donc, cette femme-là a la conscience très claire que le cœur de la luxure, c'est les yeux arrogants. Et puis, elle ajoute qu'il faut s'appuyer pour fuir sur des grands exemples. Dans ce combat-là contre la luxure, il y a la lutte, donc la prière, mais il y a aussi le fait de s'appuyer sur des grands exemples, les amitiés du ciel, les exemples des saints, et puis nos amis. On connaît tous des personnes qui sont vertueuses, exemplaires. On peut s'appuyer sur eux. On peut connaître des personnes qui étaient prises par le péché de luxure et qui en ont été plus ou moins libérées, plutôt largement. On peut s'appuyer sur eux. S'appuyer sur l'amitié pour lutter, c'est une belle chose. Alors il faut reconnaître qu'elle utilise cette expression de tentation lancinante, parce que contrairement à la gourmandise qui ne sollicite que les papilles gustatives, contrairement à l'avarice qui ne sollicite peut-être que les yeux ou un peu la psychologie, peut-être les mains, l'appât du gain, la luxure mobilise tous les sens. Et du coup, elle prend tout le corps, toute la psychologie, et elle a une place, elle prend une place qui est plus importante que les autres péchés sans doute. Mais saint Thomas était réaliste aussi quand il liait la luxure à la gourmandise. Et il faisait que le plaisir sensible qui est dans la gourmandise se retrouve aussi dans la luxure. Très bien. Quatrième paragraphe. « Et si c'est dans la tête que les yeux de chair se tournent vers l'objet du désir, cependant c'est dans l'âme que se déroule tout le combat. Car il est écrit au sujet des yeux qui se tournent sous l'effet du désir de la luxure, chez ceux qui commettent des adultères et des fautes charnelles, il est écrit « La mort est entrée par les fenêtres », un proverbe que je ne connaissais pas. Et encore, qu'on connaît mieux, « Qui regardera une femme pour la désirer charnellement a déjà commis l'adultère en son cœur. » Peut-être la chose qu'on peut retenir là, c'est que le cœur, la pointe du combat, elle se déroule dans notre âme. Il y a bien sûr la tentation du corps, mais la pointe du combat se déroule dans l'âme, et c'est dans ce cœur spirituel que se joue le combat contre la luxure et contre ce péché-là. Cinquième paragraphe, « Sur ceux qui pratiquent la continence et qui foulent aux pieds les tentations de la chair, tu trouveras ce texte. » Donc, ceux qui portent ce texte comme un petit rappel. « La lampe de ton corps, c'est ton œil. Et celui-ci, cet autre texte, « Si ton œil est simple, tout ton corps sera dans la lumière. » Un homme désirait cette entière et inviolable chasteté qui disait « Détourne mes yeux qu'ils ne voient pas la vanité. » Et bien d'autres textes analogues. Car comme le disent les docteurs, la chasteté est une vie angélique et elle fait citoyen du ciel celui qui a part à cet état. « Oh, dit quelqu'un, combien court, vraiment court, est l'instant de l'étreinte par laquelle on perd la vie future. Et combien grande la force et la splendeur d'une chasteté continuelle qui fait d'un homme mortel le concitoyen et l'égal des anges. » Ce que Duoda dit à son fils Guillaume là, c'est que il y a un appel à la vie chaste, dans une certaine mesure pour certains à la continence, que le meilleur outil pour nourrir, forger cet appel, le meilleur outil, c'est l'œil, un œil simple. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Si ton œil est simple, tout ton corps sera dans la lumière. Et la vocation, vivre chastement, vivre en luttant contre le péché de luxure, c'est pas d'abord lutter contre par obsession ou par crainte, c'est davantage se porter vers la vocation à laquelle on est appelé, qui est le bien, qui est finalement de se respecter les uns les autres, de s'aimer comme créature de Dieu et de se faire par là concitoyen des anges. Les docteurs, et elle poursuit, les docteurs en effet ne refusent pas à l'union conjugale la sainteté des noces, mais ils ont le souci de supprimer parmi nous les mauvais désirs et les fautes de luxure. Chastes furent Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et tous les autres qui, servant Dieu dans les liens du mariage, s'efforcèrent de garder leur cœur pur dans le Christ. Que dire de plus ? Il me semble là qu'il y a quelque chose qu'on peut retenir, c'est que la luxure concerne tous ceux qui vivent dans la continence pour le royaume ou ceux qui sont mariés. Et que ceux qui sont mariés s'efforcent, c'est très beau, de garder leur cœur pur dans le Christ. Et elle insiste, je reviens sur cette idée que pour les chrétiens, la sexualité pourrait être quelque chose de mauvais, elle insiste. Donc on est au 9e siècle, en plein obscurantisme, où tout le monde est moche, petit, malade, obscurantiste et affreux, parce qu'on est au Moyen-Âge et que le Moyen-Âge c'est moche, voilà, comme on sait tous, bien sûr. Voilà. Donc, en plein 9e siècle, une femme enseigne à son fils, je cite, « Les docteurs ne refusent pas à l'union conjugale la sainteté des noces. » Si les docteurs insistent sur une vie chaste, ça n'est pas pour dire que l'union conjugale, c'est mal, ça n'est pas pour dire que l'union conjugale des noces n'est pas sainte, c'est juste pour dire qu'il faut supprimer parmi nous, donc y compris au sein des couples, les mauvais désirs et les fautes de luxure, parce que, évidemment, un couple aussi, y compris s'il s'aime, il est exposé à cette tentation-là. Tous dans nos relations, on le sait pour les autres péchés, mais on peut être tenté d'utiliser l'autre à notre propre fin. Et c'est valable aussi dans l'union conjugale et dans le plaisir sexuel. Que dire de plus donc ? Et elle termine comme ça sur ce sujet. « Toi donc, mon fils, si tu gardes ton corps dans la virginité qui est un don resplendissant, ou encore dans la chasteté de l'union conjugale, tu seras pur de ce qui est la cause de ce péché, et ton âme aura part aux 8 béatitudes, et demeurera sûr et paisible en tout, comme en un perpétuel banquet. Alors se réalisera pour toi, en compagnie des justes, la juste louange énoncée au pluriel, « Courage, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Je trouve ce dernier encouragement magnifique, vraiment très beau. D'abord, c'est un encouragement de quelqu'un qui veut éduquer son fils à quelque chose de grand. Et alors là, peut-être pour les parents, pour nous-mêmes qui avons peut-être une charge d'éducateur, nous pouvons nous rappeler que lutter contre un péché, comme la luxure, c'est d'abord proposer une éducation. C'est d'abord montrer les dangers et montrer ce qui est bon, surtout. Et donner le désir de ce qui est bon. C'est ce qu'elle fait. Elle lui propose aussi les deux états, parce qu'elle lui parle de la continence pour le royaume, elle lui parle aussi de la chasteté de l'union conjugale, et elle lui dit, si tu gardes ton corps, tu seras pur de ce qui est la cause de ce péché, et ton âme aura part aux 8 béatitudes avec lesquelles elle termine, et la béatitude sur laquelle elle termine, heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Peut-être une invitation à, pendant ce temps de carême, et puis en cette veille d'annonciation, de demander la grâce d'avoir un cœur pur. C'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés. Je termine avec une expression que je vous propose, que j'aime beaucoup, qui est chez saint François de Sales. Donc on est au 16e, 17e siècle. Saint François de Sales, c'est quelqu'un qui a une sensibilité très forte, qui est très imaginatif, qui est très affectif. Ça se ressent dans tous ses écrits. Et il est devenu, en fait, par vertu personnelle, par grâce aussi, un exemple de douceur et de délicatesse, et un exemple de chasteté. Et dans un livre, son traité de l'amour de Dieu, il parle de l'éducation de la sensibilité, comme d'habitude, soit en limitant la sensibilité, soit en lui montrant le bien, les choses éternelles. Donc résister et désirer, résister à ce qui est mauvais, désirer ce qui est beau, autant. Et il y a une expression, il parle de l'amour armé. L'amour, c'est le but, et il faut que cet amour soit armé. Donc, l'amour armé nous permet, ce que disait Duoda 7 siècles plus tôt, de garder le cœur, avoir les yeux fixés sur le bien, pour garder le cœur. C'est vraiment avoir cet amour armé-là, ça nous permettra de grandir en chasteté, et du coup, de lutter contre ce péché de luxure. Je vous propose qu'on se confie à Marie, Reine des Saints, qu'elle nous aide à... Elle, qu'on va fêter demain avec le Seigneur dans cette fête de l'Annonciation, qu'elle nous aide à garder un cœur pur pour voir Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà pour cette conférence sur la luxure. Alors, il y a déjà des questions. Alors, la première question, c'est comment faire de nos jours avec le code vestimentaire pour échapper aux mauvaises pensées comme celle du désir, et que faire quand elles sont envahissantes? Alors, peut-être la première chose, alors je vais parler du point de vue de ceux qui s'habillent. Il s'agit d'honorer notre corps, mais avec encore une certaine tempérance. Donc il s'agit de lui donner sa dignité avec une certaine modestie. Peut-être particulièrement pendant le carême, on est prié de se laver, de se parfumer, d'avoir un visage souriant, joyeux. Mais même en général, c'est quand même pas mal quand on est chrétien. Si les gens doivent dire « voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont beaux, voyez comme ils sont rayonnants », s'il faut être rayonnant, alors il faut autant qu'on peut, et c'est un signe d'un juste amour de nous-mêmes, prendre soin de nous, nous habiller, etc. Il faut tâcher de le faire avec une certaine pudeur, une certaine modestie, puisqu'il s'agit en fait, avec notre corps, non pas tant de nous montrer nous-mêmes pour susciter le désir des autres, mais davantage d'être témoin de l'amour de Dieu. Comme en toute chose, c'est comme quand on fait l'aumône, on ne fait pas tellement l'aumône pour montrer qu'on est juste et charitable, on fait l'aumône parce qu'il y a quelqu'un à aider, qu'on veut l'aimer pour l'amour de Dieu. De la même manière, quand on s'habille, on se fait d'une certaine manière une aumône à soi-même, on prend soin de soi, mais pas tellement pour montrer qu'on est quelqu'un de bien, de formidable, à aimer, digne d'être aimé, pour séduire, littéralement pour ramener à nous-mêmes, mais pour témoigner de l'amour de Dieu. Donc peut-être juste une invitation à une certaine modestie, une certaine prudence dans les choix des vêtements, mais choisissez des vêtements qui vous mettent en valeur, qui vous rendent beau, qui vous vont. J'ai ma sœur qui m'a fait découvrir un truc qui m'a fait rigoler, que j'ai trouvé super, une dame qui aide, c'est surtout des jeunes femmes, à prendre conscience des vêtements qui les mettent en valeur et des couleurs qui les mettent en valeur et de ceux qui ne les servent pas forcément. C'est une bonne opération. Parfois, on est une quiche sur la manière de... On ne se juge pas bien. Autant apprendre. Voilà. Comment échapper aux mauvaises pensées? Alors, un des risques de la luxure, c'est de regarder l'autre comme un objet. Et donc, pour regarder l'autre comme un objet, on le coupe en petits morceaux. En fait, la tentation, c'est de regarder juste la partie de l'autre qu'on peut utiliser pour son propre plaisir. La bonne chose à faire pour éviter ça, c'est de regarder l'autre comme une personne. Donc la première chose, c'est de... Un petit truc, je me souviens d'un prêtre qui disait ça, il disait, donne un nom à cette personne. La personne qu'on peut être tenté de regarder avec un esprit luxurieux, de concupiscence, ben, on peut simplement lui dire, ben, voilà, ça c'est son prénom, et c'est la sœur de machin qui va mettre un point dans la gueule si, voilà. C'est l'épouse de machin, c'est la mère de ses enfants, c'est la sœur de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des relations, c'est une vraie personne, et plus que tout, elle est créature du Seigneur, et en fait, dans le Christ, elle est ma sœur. Que faire quand elles sont envahissantes? Bah, être simple, détourner, déjà s'éduquer, détourner le regard. Je prends un exemple très simple. Dans Paris, je suis très frappé en ce moment de la place. Il y a des affiches considérables qui sont mises à Paris sur les églises en restauration. C'est des affiches de mode qui sont énormes. Donc il y a des mannequins un peu partout, y compris sur les églises. Et en fait, partout dans la rue, il y en a. Bon. Peut-être la bonne chose, c'est de, sans faire comme ça, mais juste détourner discrètement son regard et voilà, de garder son cœur, comme disait Duoda. Peut-être pour les hommes spécialement, garder leur cœur de cette manière, mais pour les femmes aussi, parce que bon, dans la rue, en général, il y a davantage de publicité pour des mannequins filles que des mannequins hommes, dans l'ensemble, même s'il y en a aussi, mais souvent... Une femme peut avoir la tentation de se comparer, un homme aussi d'ailleurs, on peut avoir la tentation de se comparer. Ah, j'ai pas les abdos du mannequin Abercrombie, donc voilà. Et ben du coup, c'est l'occasion d'aller à la salle de musculation et de se prendre un peu en main. Et puis c'est l'occasion de détourner son regard, de ne pas se comparer en fait, très simplement. Le plaisir sexuel est-il un péché contre la chasteté? Non. Non, en fait, s'il est donné, non. S'il est pris pour soi-même, oui. Une épouse qui cède au péché de luxure de son mari commet-elle de ce fait également un péché de luxure? Le péché de l'autre l'entraîne-t-elle dans le péché? Ça, c'est un bon cas. Il me semble qu'il y a une invitation à accompagner l'autre dans une route commune vers la chasteté, peut-être spécialement dans les couples, mais c'est quelque chose qui se fait ensemble. S'il y a une nature fragile de l'un, bah, il faut essayer de l'accompagner du mieux qu'on peut. Voilà. Je ne dirais pas systématiquement céder, c'est tomber. Je suis peut-être à côté de la plaque en disant ça, mais je ne crois pas. Il me semble que l'objectif, c'est vraiment de grandir avec l'autre. Mais il faut juste que l'objectif soit clairement posé quand même. Alors, en général, quand on dit les choses clairement, on est moins tenté de céder au péché de luxure. Mais peut-être que si on n'a pas le courage de dire à l'autre, bah, je pense que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bon, etc., il y a quelque chose qui n'est pas honoré dans la vocation d'épouse ou d'époux. Pourquoi un chrétien doit-il rechercher la chasteté? Comment faire pour la désirer quand on n'en voit pas le bien pour soi? Alors, peut-être là, il y a confusion avec la continence. La continence, c'est la virginité, enfin c'est le fait de ne pas avoir de relations sexuelles comme un signe pour le royaume, pour ceux qui se consacrent, comme une attente, une préparation pour ceux qui nous sont donnés dans le mariage. Donc la chasteté, ça n'est pas la continence. La chasteté, c'est le fait de ne pas, pour le dire grossièrement, de ne pas utiliser l'autre, d'être en relation avec l'autre, dans une relation libre, qui laisse l'autre libre. De ne pas asservir l'autre, de ne pas manipuler l'autre, de ne pas utiliser l'autre pour son propre plaisir. Donc en fait, je pense qu'ayant dit ça, je réponds à la question parce qu'en fait, on voit forcément le bien pour soi de ne pas utiliser les autres, enfin, normalement. Voilà. Si on a l'habitude d'utiliser les autres, alors là, peut-être, si on sent ça, et il peut y avoir psychologiquement, des instincts de survie qui se développent. Bon, si on a l'habitude d'être un manipulateur, ben, il faut vraiment faire attention, se guérir, travailler, demander humblement de l'aide, des amis peut-être, un psychologue si nécessaire, et travailler pour respecter les autres. Comment parler de la sexualité et de la pureté avec ses enfants de manière positive? Ben, il me semble que la première chose, c'est de leur montrer la beauté du don de soi, que les parents soient amoureux et simplement amoureux, qu'ils soient pudiques sans être pudibons, c'est-à-dire qu'il sache se montrer des signes de tendresse et d'affection sans être peureux de les montrer. Enfin, quand on aime, ben, on le montre. Voilà. S'il y en a qui ont des doutes sur la manière, la beauté que ça peut être, je vous invite avec un cœur pur, vraiment, à lire le Cantique des Cantiques, qui est quelque chose de très beau, ou pour les hommes, à vous émerveiller comme Adam quand Ève surgit. Pour les femmes, peut-être qu'elle s'est émerveillée aussi, je ne sais pas. Voilà. Mais oui, parler avec vos enfants, y a sans doute des âges, il y a des choses à respecter. Une des choses qui est compliquée, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, en gros, aux États-Unis, à partir de l'âge de 9 ans, en France, à partir de l'âge de 11 ans, mais sont confrontés à la pornographie, en moyenne. Donc, c'est sûr que c'est bien de les accompagner avec délicatesse. Le surgissement d'Internet et de la pornographie modifie considérablement le rapport à la sexualité et au développement psychologique affectif des enfants. Donc il y a une vraie prudence à avoir, certainement. Mais en parlant, en montrant la beauté de l'amour et du respect, il me semble qu'on montre déjà la plus belle des choses. J'ai un couple que j'aime beaucoup. Elle donnait un témoignage, ils ont eu une seule fille, mais elle donnait un témoignage. Elle disait que son mari, toujours en public, disait du bien d'elle. Toujours. Jamais il lui faisait un reproche en public, jamais. Dire du bien les uns des autres, qu'un couple soit uni comme ça, qu'il se montre par ses gestes d'affection, il me semble que c'est le meilleur exemple pour les enfants. Quand il s'agit de parler de sexualité concrètement, il faut le faire avec simplicité, en nommant les choses, avec pudeur, avec délicatesse, en respectant l'âge des enfants, sans vouloir trop dire trop vite. Bon, il y a plein de très bons conseils qui sont donnés là-dessus, mais je propose de ne pas faire toute la soirée là-dessus. Merci pour les sources inspirantes que vous avez citées, de rien. En tant que prêtre, donc homme, qui recevait des femmes en confession et qui sont amenés à confesser un péché de luxure, quel regard posez-vous sur elles ? Eh bien, j'essaye de poser le même regard que sur un homme, d'abord, qui commet un péché de luxure, en fait, sur une personne qui confesse un péché. Et peut-être pour une femme, je peux me rappeler l'exemple de Jésus, très simplement. Quand Marie est prête d'être... Enfin, la femme adultère est prête d'être... d'être lapidé et que Jésus se met à son niveau et qu'il écrit sur le sol et puis qu'il la relève et il lui dit « Ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Je ne sais pas, il me semble qu'il faut regarder comme Jésus, quoi, mais c'est valable pour tous les péchés. Donc. Peut-on avoir des relations sexuelles avant le mariage ? Eh bien, c'est une bonne question, c'est une question qui est un peu classique. Mais encore une fois, il y a un péché un nom qui désigne le fait d'avoir des relations sexuelles avant et en dehors de son mariage, c'est le mot de fornication. C'est le fait de coucher avec une personne qui n'est pas son mari ou sa femme. L'union des corps d'un époux et d'une épouse manifeste, concrétise, réalise le sacrement qu'ils se sont donné le jour de leur mariage. C'est le signe concret de cet amour qu'ils se sont promis et qui est dans les mains de Dieu. Autrement dit, la sexualité, elle est faite comme un signe du mariage. Elle est faite comme le signe d'une alliance entre un homme et une femme sous le regard bienveillant du Seigneur. Donc le fait d'avoir des relations sexuelles avant de se marier, y compris avec la personne peut-être avec laquelle on est fiancé, c'est quelque chose que l'Église recommande de ne pas faire. C'est quelque chose qui est un péché, simplement parce que ça n'honore pas la finalité de cette union des corps. ça ne lui donne pas toute sa dignité. Et en fait, on se rend compte que avoir des relations sexuelles avant de se marier, et y compris avec sa fiancée, avec son fiancé, ça peut brouiller les pistes, ça peut brouiller le discernement. Parce que pourquoi ? Parce que la sexualité lie les corps d'une manière qui est très profonde, qui est très charnelle, qui est très puissante, qui est très... tout à l'heure, je vous disais que tous les sens étaient pris. La psychologie est engagée, voilà. Et cette union-là, avec une personne avec laquelle on n'a pas encore de lien établi et reconnu, brouille un peu les pistes. On se dit, si je couche, je suis obligé de... Donc on est moins libre. Or, pour se marier, précisément, un des critères déterminants, c'est la liberté. Voilà. Un exemple très concret, si un couple couche ensemble à un enfant avant le mariage, il faut vraiment être prudent sur la nécessité ou pas de se marier. En fait. Il faut être délicat. Voilà. C'est pas systématique, c'est pas parce qu'il y a des relations sexuelles qu'il y a un mariage. Voilà. L'autre chose que l'on peut dire, c'est que en fait, les relations sexuelles, elles marquent différemment un homme et une femme. Elles n'ont pas la même résonance, elles ne sont pas vécues de la même manière. La sexualité masculine, souvent on la rend un petit peu simple, elle n'est pas si simple que ça, mais elle est peut-être un peu plus impulsive que la sexualité féminine, qui demande un peu plus de temps. Un homme et une femme n'attendra pas forcément la même chose. Et le rapport au désir d'ailleurs n'est pas le même. Et donc il y a une certaine prudence à avoir parce que pour un fiancé ou pour un garçon, c'est peut-être une preuve, le fait qu'il veut montrer que... il existe, qu'il peut être aimé. Pour une femme, c'est peut-être un peu différent. Une jeune femme, ça peut être tout donné, ça peut être plus puissant. Et à la fin, ce qui est donné et repris quand on s'en va et qu'on se sépare peut créer des dommages très profonds. Et il y a du coup toute une rééducation de la capacité à aimer qui est à refaire. Ça, c'était pour cette question. Pourriez-vous nous indiquer comment formuler les choses en confession pour être à la fois précis et en même temps, pas impudique lorsqu'il s'agit de luxure. Alors, je remercie pour la question. Moi, je suis un jeune prêtre, donc je ne vais pas donner des conseils de vieux baroudeurs. Peut-être il faudrait poser cette question à des personnes qui confessent plus expérimentées. Du point de vue du prêtre, il me semble qu'il y a une très grande prudence à avoir et il ne s'agit pas d'interroger le pénitent. Faire l'aveu d'un péché, c'est déjà une opération qui est compliquée. Si vraiment il y a un élément qui pose un problème pour le discernement ou pour le conseil à donner, on peut suggérer peut-être une question en demandant à la personne si elle veut bien qu'on l'interroge sur ce point, mais pas davantage. Du point de vue du pénitent, il me semble qu'il faut être simple. Confesser un péché de luxure, c'est confesser pas largement. Ça peut être le fait de poser un regard qui est impudique, ça peut être le fait de poser un geste qui est impudique, ça peut être le fait de poser un geste, la masturbation par exemple entre dans ce cas-là, un geste qui est impur. Dans ces cas-là, il convient peut-être pour aider le confesseur à dire si c'est quelque chose qui est habituel, contre lequel on lutte, peut-être quelque chose contre lequel on est accompagné, qu'on a pris au sérieux. Je reviens sur ce point-là. Aujourd'hui, avec la pornographie, surtout des jeunes hommes, mais aussi des jeunes femmes maintenant, sont pris par une addiction à Internet largement et la pornographie en particulier. Je crois que la pornographie, c'est un tiers des connexions d'Internet dans le monde. Voilà. Donc ça a énormément contribué au développement d'Internet, évidemment. Ça modifie considérablement le rapport à l'affection. Et en fait, le gros problème, autrefois, quand il fallait aller regarder quelque chose, des images impudiques, autrefois, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, mais autrefois, il fallait aller dans un kiosque, dans un magasin, on passait pour quelqu'un de louche. Voilà. Aujourd'hui, il suffit juste d'un téléphone, d'un peu de solitude, et puis on a l'univers de la pornographie à ses pieds. En fait, certains sont pris par cette addiction et donc le fait de l'addiction, j'insiste sur ce point pour la question de la confession, préciser à un confesseur si on a un problème d'addiction, c'est lui rendre un service, parce que c'est l'aider à discerner ce qui est de l'ordre du péché, donc où la volonté est engagée, et ce qui est de l'ordre de la pathologie. L'addiction à la pornographie, c'est comme l'addiction à la cocaïne, à l'héroïne, au sport, c'est comme l'addiction à la dopamine, c'est l'addiction à, enfin, à toute forme d'addiction, c'est une drogue, en fait. C'est une drogue qui est extrêmement puissante, qui génère dans le cerveau des schémas, des connexions, qui ne s'effacent pas. En fait, quand ces connexions, en psychologie, ils appellent ça le schéma de la récompense, il y a un produit qui crée une émotion, une sensation et du coup une récompense. Quand ce schéma-là est engagé, en fait, ce schéma neuronal ne s'efface pas. Donc il y a des liens qui sont créés, qui sont pour toujours. C'est comme la cigarette, c'est comme l'alcool. On se dit, je fais une première fois, mais en fait, la première fois crée quelque chose qui ne s'efface pas. Et plus on entretient, plus on solidifie les connexions. Donc en fait, au bout d'un moment, il y a une addiction quand la volonté n'est plus capable de dire non à la tentation. Et dans ce cas-là, le préciser au confesseur, pardon, c'est un peu long, mais je pense que c'est un point important, préciser au confesseur qu'on est addict, c'est l'aider à ne pas vous dire... allez mon gars, allez mademoiselle, un petit peu de volonté. Bah oui, précisément, il n'y a plus de volonté, parce qu'il y a une pathologie. Donc s'il y a une maladie, s'il y a une pathologie, s'il y a une addiction, il faut avoir la simplicité de le dire, la simplicité de se faire aider, accompagner. Voilà. Donc ça permet au confesseur, en disant ça, ça lui permet de distinguer ce qui est de l'ordre du péché, donc de la volonté, de ce qui n'est pas de l'ordre du péché, parce que c'est de l'ordre... d'une maladie qui se soigne. Voilà. Ben voilà, il y a d'autres questions ? Attends. Et je crois que j'ai tout dit. Peut-être aujourd'hui, il y a des programmes un peu à l'américaine qui se sont développés, mais qui sont stimulants, qui s'appellent Exodus pour les hommes et Magnify pour les jeunes femmes. En 90 jours, on propose une sorte de chemin de libération, un peu de mener une vie droite, une vie énergique, une vie remplie, une vie chrétienne. L'idée, c'est de née aux États-Unis devant... ceux qui accompagnent les thérapeutes, les sexologues, disent que depuis Internet, les patients qui viennent avec des troubles de la sexualité, des troubles de l'addiction, les couples qui viennent parce qu'ils n'arrivent plus à s'aimer, parce que bon, tout est pété, a complètement explosé, en fait. Complètement explosé. Je me souviens des témoignages d'un médecin aux États-Unis qui disait que il y a 15 ans, il était seul à consulter sur ce sujet. Et maintenant, il a créé une clinique et ils sont 8. Voilà. Et c'est du travail en permanence. En fait, ce point-là modifierait beaucoup de choses. Du coup, pour fortifier les jeunes, ces Américains ont pensé à ces programmes de libération. Il s'agit en gros de prier plus, jeûner, pour les hommes, prendre des douches froides, faire du sport... prendre un temps de prière conséquent tous les jours, mener une vie droite, un minimum d'écran pour les choses professionnelles, pas d'alcool, voilà, pendant 90 jours. Et à la fin, et un accompagnement spirituel, la confession fréquente, et aussi, et c'est peut-être la chose qui me paraît la plus suggestive, l'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des petites fraternités d'hommes et de femmes qui se font et qui se soutiennent dans ce désir de mener une vie droite. À la fin, il ne s'agit pas d'être le surhomme ou la surfemme pour être les meilleurs, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire de la place dans son cœur et dans sa vie pour aimer les autres, en fait. Pour aimer le Seigneur, aimer les autres et nous aimer nous-mêmes justement. Donc ça peut être une piste, peut-être pour les... En fait pour tous, enfin jeunes hommes et moins jeunes, jeunes femmes et moins jeunes, voilà, ça peut être une belle chose. Voilà. N'ayez jamais peur de demander pardon pour ce péché. Voilà. Amen. Mais il n'y a plus de questions, je crois. Si? C'est bon? On finit? Adieu.